Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est le journal Isabelle Millet.
Ce soir, grâce aux sorties qui sont nombreuses, nous avons 513 personnes hospitalisées en moins. C'est donc la première baisse. Il faut la saluer tout en restant très prudent.
Un signe encourageant donc ce soir, on vient de l'entendre. Pour la première fois, le nombre d'hospitalisations pour coronavirus est en baisse. Ils sont en première ligne. Les soignants vont recevoir une prime, mais ils auraient préféré une aide plus globale sur le long terme.
C'est pas du tout ce qu'on demande. Ce qu'on veut, ce sont des revalorisations salariales, permanentes, durables.
Lors du déconfinement, tout le monde ne pourra sans doute pas sortir. Au même moment, 18 millions de personnes à risque pourraient devoir rester un peu plus longtemps chez elles, d'après le professeur Delfraissy, on l'entendra. C'est l'annonce de la soirée. Amazon ferme ses sites français pour 5 jours après un rappel à l'ordre de la justice. Le terrible incendie de Notre-Dame de Paris, c'était il y a tout juste un an. Le confinement retarde le chantier de reconstruction de la cathédrale. Et puis les habitudes des amateurs de cyclisme, chamboulées cette année. Le Tour de France aura bien lieu, non pas au début, mais à la fin des grandes vacances.
Cette année, le défi est un peu différent. Le Tour de France, ce sont des sourires. Alors, il y a peut-être un peu moins de monde au bord des routes, moins d'étrangers notamment, mais il y aura du monde, les gens pourront venir.
Le ciel sera encore bleu demain matin, mais attention, les nuages vont arriver à la mi-journée par la façade atlantique. Ils apporteront de la pluie. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris a terminé en net recul ce soir, -3,76%. On verra avec Didier Hamot de Boursier.com comment s'est passée cette journée sur les places financières. Il nous dira notamment que le cours du pétrole à New York a fini à son plus bas depuis février 2002. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview d'Emmanuel Duteil, l'interview Echo. Emmanuel reçoit ce soir Nicolas de la Giraudet, le directeur général de General Mills au Yoplait en France.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le nombre de victimes du coronavirus atteint désormais 17 167, dont près de 11 000 décès dans les hôpitaux et plus de 6 500 dans les EHPAD et établissements pour personnes âgées. Mais la bonne nouvelle de la soirée quand même, c'est que pour la première fois, le nombre des hospitalisations est en baisse. Et puis, autre signe encourageant, une légère baisse également des besoins en réanimation qui se confirment, même s'il persiste encore, bien sûr, de fortes tensions dans certaines régions. Alors que le gouvernement a annoncé aujourd'hui qu'il allait offrir des primes, Emmanuel Duteil, des primes en particulier pour tous ceux qui sont en première ligne.
Alors, on va commencer par la prime pour les soignants. Dans les départements les plus touchés, les personnels vont percevoir dès le mois prochain une prime de 1500 euros net. Et ceux des services qui ont accueilli des patients atteints du coronavirus dans les départements les moins touchés vont également toucher cette prime. Les autres personnels auront 500 euros. Tous verront en août leurs heures supplémentaires majorées de 50%. Il va aussi y avoir une prime à venir cette fois pour le personnel du secteur médico-social, notamment celui des EHPAD. Il y a également une prime de 1000 euros au maximum qui va être versée cette fois aux fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires qui ont beaucoup été sollicités avec l'épidémie. Cette prime sera versée par exemple aux enseignants qui gardent les enfants des soignants, aux douaniers qui font des opérations de contrôle ou aux surveillants pénitentiaires. Un fonctionnaire de la fonction publique d'État sur 5 devrait recevoir cette prime, soit 400 000 personnes.
Et on en sait plus également sur l'aide qui sera versée cette fois aux familles les plus démunies, comme l'avait promis Emmanuel Macron lundi soir.
Alors, chaque famille bénéficiaire du RSA ou de l'allocation de solidarité spécifique recevra 150 euros chacune, plus 100 euros par enfant. Les familles touchant des aides au logement percevront de leur côté 100 euros par enfant. On attend aussi des détails pour une aide pour les étudiants les plus précaires.
Les précisions d'Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Alors des primes, c'est bien, mais cela ne réglera pas la crise de fond à l'hôpital public. C'est ce que répond ce soir en tout cas Julie De Victor. Elle est infirmière et membre du syndicat Unipa.
Le gouvernement fait un effet d'annonce, un effet de communication. Regardez, on rémunère les soignants parce que ce sont les héros de la nation, etc. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on demande. Ce qu'on veut, ce sont des revalorisations salariales permanentes, durables. Bien sûr, les soignants là sont en première ligne pour cette gestion de la crise Covid, mais ils sont en première ligne tout le temps. Quand c'est pas pour le Covid, c'est pour les maladies chroniques, c'est pour les urgences vitales. Les soignants, ils sont à l'hôpital 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, ils ont besoin d'une rémunération décente et pas à coups de primette pour faire style devant l'opinion publique qu'on sait remercier les héros de la nation, comme ils nous appellent, sachant que bien évidemment, les soignants ne se prennent pas du tout pour des héros, demandent juste, encore une fois, d'être valorisés à la hauteur du niveau de responsabilité et du niveau de pénibilité de leur travail. Les remerciements, les applaudissements, c'est super sympa, ça touche, etc. Mais c'est pas ça qui remplit un frigo.
Des primettes, dit Julie De Victor, infirmière, jointe pour Europe 1 par Sophie Echène. Notez que la mairie de Marseille a annoncé qu'elle allait rouvrir son imposante cuisine centrale qui sert d'habitude les cantines scolaires pour préparer chaque jour 5000 repas en faveur des familles les plus précaires. Le CHU de Bordeaux annonce lui avoir lancé un essai clinique de traitement précoce du Covid-19 en ambulatoire, c'est-à-dire au domicile des patients. Un test avec 4 thérapies différentes, notamment de l'hydroxychloroquine. Cet essai co-réalisé par l'Université de Bordeaux va porter sur plus de 1000 patients de l'agglomération bordelaise, des hommes et des femmes de plus de 65 ans. Alors qu'une levée très progressive du confinement se profile à partir du 11 mai, quelques 18 millions de personnes à risque pourraient devoir rester chez elles après cette date. C'est en tout cas la recommandation aujourd'hui du président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. Il s'en est expliqué aujourd'hui devant les sénateurs.
Les personnes qui sont les plus à risque de développer une forme grave, ça va rester. Ce sont les personnes d'un certain âge, donc au-dessus de 65 ou de 70 ans. Ce sont les personnes qui ont des affections de longue durée, qui ont des multipathologies, insuffisance respiratoire, cardiaque, etc. Et puis ce sont des sujets jeunes, ayant une pathologie, mais aussi obèses, puisque vous savez que c'est un facteur de gravité pour les formes graves. Alors tout ça, ça fait 18 millions de personnes. Donc de toute façon, numérique ou pas numérique, nous avons à la sortie du confinement 18 millions de personnes qui sont à risque d'être contaminé et de continuer à développer une forme grave. Donc ces 18 millions de personnes, c'est pas un scoop, eh bien, on continuera le confinement. Dans des conditions, pour combien de temps, je ne sais pas, en attendant qu'on trouve peut-être un médicament préventif, mais il faudra poursuivre le confinement parce qu'elles sont à risque de développer une forme grave.
Le professeur Delfraissy qui s'exprimait devant les sénateurs. 18 millions de personnes, un tiers des Français. C'est bien sûr le gouvernement qui va trancher. La question du déconfinement s'accompagne aussi de celle cruciale des masques pour la population. La ville de Cannes a commencé à en distribuer massivement, en commençant par les commerçants et les personnes les plus fragiles. La SNCF, qui prévoit une reprise progressive du trafic d'ici l'été, considère que les passagers devront en porter. Quant à l'application mobile qui permettrait de prévenir lorsqu'on a croisé une personne contaminée, eh bien, un débat sans vote aura lieu au Parlement les 28 et 29 avril. C'est une autre déclaration qui fait beaucoup réagir depuis ce matin. Le professeur Didier Raoult affirme que le Covid-19 est en train de disparaître à Marseille, qu'il n'y aura peut-être plus aucun cas au printemps. Didier Raoult, qui, on le rappelle, administre depuis le début de la crise de la chloroquine à ses patients. Le directeur de l'autorité régionale de santé lui répond non. Dit-il, l'épidémie n'est pas en train de disparaître. Emmanuel Macron assume complètement d'avoir maintenu le premier tour des élections municipales 2 jours avant le début du confinement. Il le dit dans un entretien au magazine Le Point. Le président reconnaît avoir hésité à le reporter avant de décider de le maintenir en prenant compte de l'avis du conseil scientifique. Et il ajoute que les gens ont sans doute été davantage contaminés ces jours-là dans les bars ou les sorties en plein air que dans les bureaux de vote. Il prend également la défense de son ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, très critiquée. Le couple de propriétaires qui craignaient d'être contaminés par le coronavirus et qui avaient contraint une infirmière anesthésiste de Montpellier à quitter son domicile, eh bien ce couple est convoqué le 29 juin pour être jugé devant le tribunal correctionnel.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h08, merci à vous d'écouter Europe 1 et c'est la suite de votre journal. On vous en parlait hier soir ici même. Amazon avait été sommé de se limiter à la livraison des produits essentiels, le temps d'évaluer correctement les risques sanitaires pour ses salariés. Eh bien, le groupe a annoncé ce soir la fermeture de ses sites français pour 5 jours. Alors comment ça va se passer exactement, Clément Le Saffre ?
Alors cela concerne les 6 centres de distribution d'Amazon en France. Ils fermeront leurs portes demain à 13h et ne rouvriront que mardi matin. Le risque de se mettre en infraction avec le jugement était trop élevé, a indiqué Amazon. Objectif de cette fermeture générale inédite, évaluer avec les représentants du personnel l'efficacité des mesures mises en place pour protéger les salariés du coronavirus. Une décision forte donc, saluée par Laurent Degouzet, délégué de la Fédération Sud-Commerce.
Amazon consent manifestement à se mettre en mode pause. Ils admettent que s'ils n'avaient pas pu considérer une évaluation sérieuse des risques auxquels les salariés étaient confrontés, c'est parce que c'était incompatible avec la poursuite de l'activité. Donc moi je dis bon coup. profitons de cette pause pour discuter. Tout le monde fournit des efforts, donc c'est Amazon d'en fournir à son tour.
Et le manque à gagner lié à ces fermetures est colossal pour Amazon. En temps normal, un seul entrepôt peut traiter en une journée jusqu'à 170 000 produits. Sur 5 jours, les pertes se chiffrent donc en millions d'euros. Les 10 000 salariés et intérimaires concernés, eux, vont être mis au chômage partiel et payés à 100% de leur rémunération. Enfin, côté consommateur, il sera toujours possible de passer commande sur Amazon, mais uniquement auprès de vendeurs tiers qui utilisent le site pour vendre leurs produits.
Les explications pour Europe 1 de Clément Le Saffre. Des nouvelles de nos voisins. En Belgique, le confinement est prolongé jusqu'au 3 mai inclus. En Allemagne, les magasins de moins de 800 mètres carrés sont autorisés à rouvrir. Les écoles et lycées, eux, rouvriront progressivement à partir du 4 mai. En revanche, les grands rassemblements, notamment sportifs, sont interdits jusqu'au 31 août, tandis que le Luxembourg va rendre obligatoire le port du masque, d'une écharpe ou d'un foulard sur la bouche à partir de lundi. Depuis le début de cette crise sanitaire, elle est l'institution nationale qui est au premier plan pour suivre l'épidémie. L'OMS, bien sûr, l'Organisation mondiale de la santé, accusée, vous le savez, par Donald Trump d'avoir dissimulé la gravité du virus. Le président américain a pris une mesure radicale puisque son pays, a-t-il dit, ne versera plus d'argent à l'OMS. Condamnation unanime à travers le monde car les États-Unis sont, ou en tout cas étaient jusqu'à présent, les premiers contributeurs de l'OMS. Pauline Jacquot, quelles conséquences cela peut-il avoir ?
Eh bien, ça va dépendre évidemment du jour où le pays va concrètement arrêter son financement. Pour le moment, le président américain n'a rien précisé. Il dit attendre une étude qui pourrait durer un peu plus d'un mois sur le rôle exact de l'OMS dans la gestion de l'épidémie. Ce que l'on sait, c'est que les États-Unis donnent environ chaque année 400 millions de dollars à l'OMS. C'est 15% du budget global. L'impact pourrait donc être important, surtout pour les pays les plus pauvres, en ce qui concerne l'approvisionnement des médicaments en Afrique, par exemple. Mais à ce stade, le risque est surtout politique, selon Frédéric Bizard, économiste de la santé.
Ça pourrait donner un mauvais exemple à d'autres pays, notamment des pays qui sont dirigés par des dirigeants un peu isolationnistes, voire populistes. Par exemple, on peut penser au Brésil. Le retrait du financement des États-Unis, qui s'ajoute quand même à un constat que l'OMS a été trop suiveuse des informations chinoises, fait qu'aujourd'hui l'OMS est quand même en grande difficulté.
L'enjeu, c'est donc aussi le crédit, la légitimité et la force de frappe de l'OMS. La menace américaine pourrait être l'occasion, selon certains experts, de réformer cette organisation en lui donnant un pouvoir de sanction et plus d'indépendance vis-à-vis des États membres.
Les précisions de Pauline Jacquot. L'Union européenne annonce une conférence des donateurs le 4 mai pour lever des fonds pour la recherche d'un vaccin, tandis que les pays du G20 se sont eux mis d'accord aujourd'hui pour suspendre pour un an la dette des pays les plus pauvres. Les autres grands titres de l'actualité de ce mercredi, un homme armé d'un couteau a été tué cet après-midi par des policiers à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, après avoir menacé les fonctionnaires. Les agents contrôlaient le respect du confinement, une enquête a été ouverte. Deux personnes ont été tuées, cinq autres blessées dans l'accident d'un hélicoptère militaire dans les Hautes-Pyrénées. C'était lors d'un vol d'entraînement. L'appareil appartenait au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Un an, jour pour jour, après l'incendie, le bourdon de la cathédrale Notre-Dame de Paris a retenti ce soir à 20h, en même temps donc que les applaudissements pour les soignants. On a tous encore en tête, bien sûr, ces images de la toiture en flammes qui s'embrase, de la flèche qui s'effondre. Emmanuel Macron a redit dans une vidéo que tout sera fait pour tenir l'objectif de reconstruire cette cathédrale d'ici à 2024. Il reste donc 4 ans. Sauf qu'aujourd'hui, Jeanne Bergaoui, le chantier est à l'arrêt depuis un mois pour cause, bien sûr, de confinement.
Absolument, et chaque jour de retard fait grimper la facture. Sur le chantier, la location des échafaudages ou de l'immense grue sera évidemment prolongée. Selon nos informations, le budget consacré à cette phase de sécurisation pourrait ainsi doubler. Lorsque les travaux pourront redémarrer, l'urgence sera de démonter les 10 000 tubes de l'échafaudage antérieur. Il y aura ensuite un diagnostic, c'est lui qui permettra de déterminer le coût de la restauration. La phase de reconstruction devrait commencer l'année prochaine. 2024, c'est encore un objectif tenable, assure André Fineau, le directeur de la communication de la cathédrale.
Les architectes sont au travail, à distance. Ils ont des diagnostics à effectuer. Les ouvriers travaillent également à distance. Il y a des entreprises qui doivent faire des modélisations en 3D de différents éléments. Il y a plusieurs scénarios qu'il faut proposer pour protéger cette cathédrale. Donc tout le monde travaille pour tenir ce délai de 5 ans.
Un délai réaliste, confirme le général Georges Lain à la tête de l'établissement public en charge de la conservation. Dans 4 ans, l'ensemble de la cathédrale ne sera pas forcément rénové. Alors une cloison pourrait être mise en place. D'un côté, les ouvriers pourraient poursuivre le chantier. De l'autre, les fidèles et les touristes pourraient déambuler en toute sécurité dans la nef et les autres parties restaurées de Notre-Dame.
Et on suivra ça évidemment de très près sur Europe 1. Jehan Bergaoui pour ses précisions. Et puis s'il n'en reste qu'un à la fin, ce sera peut-être lui. Alors que les festivals d'été sont annulés les uns après les autres, dernier en date ce soir celui des Vieilles Charrues. Alors que les JO et l'Euro de foot sont reportés à l'an prochain, le Tour de France, lui, fait figure de résistant puisque l'édition 2020 n'est pas annulée, simplement décalée. Traditionnellement juilletiste, il prendra possession des routes françaises plus tard dans l'été, fin août, avec un départ le 29 août. De Nice et une arrivée sur les Champs-Élysées le 20 septembre. Son directeur Christian Prudhomme était l'invité d'Europe 1. Ce soir, il a expliqué comment ce report avait été décidé.
Dans ces choses qui peuvent paraître futiles, il y en a certaines comme le sport et notamment le Tour de France qu'il faut préparer. Donc voilà, on a eu vite conscience, en fait, dès le 16 mars, je pense, qu'il fallait aussi préparer les élus à un Tour de France qui aurait lieu plus tard. Donc dès cette intervention du 16 mars, nous avons commencé à appeler les collectivités du Tour en leur demandant si le Tour était reporté de quelques semaines, qu'est-ce que ça donnerait. Et on a senti qu'elles allaient toutes dire oui. On s'est dit qu'il faut agir le plus vite possible, sachant que nous travaillons évidemment depuis des semaines avec les services de l'État, évidemment depuis des semaines avec le monde du cyclisme dans son ensemble, et évidemment depuis des semaines avec les collectivités hôtes du Tour de France.
Alors ce décalage, donc départ 29 août du côté de Nice pour une arrivée le 20 septembre sur les Champs-Élysées, c'est aussi un défi logistique. Le parcours d'abord, il reste identique au tracé initial avec quand même quelques modifications qui pourraient être effectuées ?
Le parcours est identique, mais en effet, il est possible que ponctuellement, peut-être qu'il faudra changer, on s'adaptera. Cette année, le défi est un peu différent. Le Tour de France, ce sont des sourires. Alors, il y a peut-être un peu moins de monde au bord des routes, moins d'étrangers notamment, mais il y aura du monde, les gens pourront venir. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est le Tour comme un espoir, comme la lumière au bout du tunnel, et puis un Tour qui est évidemment la première course cycliste au monde, mais qui est essentielle aussi pour le tourisme en France.
Christian Prudhomme, qui était l'invité du Grand Journal de Nathalie Lévy ce soir sur Europe 1. La météo, on voit ça tout de suite avec vous, Anissa Haddadi. Et Anissa, le temps va devenir menaçant par l'ouest.
Oui, effectivement Isabelle, dès le début de la journée, demain le ciel devient menaçant à l'ouest, sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Nous aurons quelques averses qui se déclenchent dès le lever du jour. Sur le golfe du Lion, comme aujourd'hui, demain nous aurons des entrées maritimes qui vous apporteront des nuages et peut-être quelques gouttes. Et puis ailleurs, le ciel reste lumineux. Dans l'après-midi, à l'ouest, les nuages s'étendent de la Gironde jusqu'à la Bretagne. Et la pluie arrive dans ce secteur demain en fin de journée. Les températures, elles sont fraîches encore le matin avec 1 à 7 degrés sur le nord-est, 11 à 14 sur les rivages et même jusqu'à 17 degrés sur le Pays basque demain matin. Et puis dans l'après-midi, il fait plus frais sur le nord-ouest et la Méditerranée avec seulement 15 degrés à Dunkerque, 19 à Montpellier, 21 à Marseille, 24 pour Paris, 26 à Strasbourg et à Limoges.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général de General Mills, Yoplait en France. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. À 22h18 sur Europe 1, comme tous les soirs, on va s'intéresser maintenant à la bourse avec vous Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui repart à la baisse après plusieurs indicateurs économiques qui ont été plus mauvais que prévu aux États-Unis.
Oui, ça retombe. Wall Street en net repli ce soir. Le Dow Jones moins 1,85%, 23 507 points. Le Nasdaq moins 1,44%, 8 393 points. Effectivement, les indicateurs économiques publiés aux États-Unis sont encore plus mauvais que prévu. Les ventes au détail ont chuté de 8,7% au mois de mars. C'est le pire score depuis 28 ans. Et la production industrielle américaine a plongé de 5,4%, c'est le plus mauvais résultat depuis 1946. La Réserve fédérale américaine a confirmé ce soir la gravité de la situation économique dans le cadre de son fameux livre beige. Conséquence aussi, le pétrole chute encore, la demande diminue à vue d'œil. On a un baril qui chute au plus bas depuis 18 ans, avec un baril de Brent à 27,95 $, en baisse de 7%. Le WTI américain recule de 2% sur la barre des 20 $. Ça donne Exxon ce soir qui perd près de 5%. Le géant pétrolier recule de 4,6%, Exxon. Et puis les banques américaines reculent aussi nettement. sur des résultats fraîchement accueillis, des trimestriels qui ne sont pas bons. Citigroup, moins 5%. Bank of America, moins 6%. Goldman Sachs résiste quand même, pratiquement stable. Aux valeurs de technologie, Apple, moins 0,9%. Microsoft, moins 1%. Ça baisse de 1 à 2% sur Facebook, sur Intel aussi. Et IBM perd 4%. Il y a une exception, c'est Tesla qui monte encore de 2,8%. $730 ce soir. Et sur les devises, ça ne bouge pas vraiment. L'euro est stable à 1,0915 face au dollar.
Et la Bourse de Paris, elle aussi, hein, a rechuté ce soir en baisse de plus de 3% sur le CAC 40.
Oui, ça retombe nettement, oui, 3,7% de baisse, 4354 points après 5 séances positives. La nouvelle dégringolade du pétrole a pesé très lourd sur la tendance. On a Technip et Vallourec qui retombent de plus de 10%. CGG a chuté de plus de 9% et Total, qui pèse très lourd dans la composition du CAC 40, Total est en baisse ce soir de 6%. Et puis les banques aussi retombent en attendant les résultats trimestriels. On a des valeurs comme Natixis, moins 8%, Crédit Agricole, moins 8% aussi, des replis de 7 à 8% sur BNP ou la Société Générale. Et puis Coface perd aussi 7% ce soir à la clôture.
Et puis exception du jour, le titre Danone qui a de nouveau progressé.
Encore, oui, plus 1,2%, 62 euros. C'est la troisième journée de hausse consécutive pour le groupe agroalimentaire. Le broker Crédit Suisse reste favorable au titre Danone en visant un cours de 69 euros. L'analyste estime que la valeur reste très abordable et présente un profil particulièrement défensif dans le contexte actuel. Sur son créneau de la nutrition spécialisée, Danone en hausse ce soir encore d'1,2%. Sur les autres places financières, ça baisse partout, fortement. Rechute de 4,5% à Bruxelles, moins 4,8% à Milan, moins 3,8% à Madrid, moins 3,9% à Francfort. Et donc le CAC 40 en baisse de 3,76%, 4354 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, toujours très complet. Didier Hamot de Boursier.com. Il est temps de retrouver maintenant l'invité éco, Emmanuel Dutheil. Vous recevez ce soir le directeur général de General Mills Yoplait en France.
Bonsoir Nicolas de la Giraudet.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général en France de General Mills Yoplait. Alors vous avez d'autres marques qui sont très connues. On pourrait également citer les glaces Häagen-Dazs. Justement, en cette période de confinement, qu'est-ce qu'on mange chez vous?
Alors nous, on est en deuxième ligne de front dans cette période unique et sans précédent, et on a un rôle majeur qui est effectivement d'assurer la continuité de notre activité afin de garantir l'approvisionnement des magasins alimentaires et de maintenir un débouché pour les agriculteurs français. Donc aujourd'hui, Yoplait, Géant Vert, Häagen-Dazs, Old El Paso, c'est des marques du quotidien, des marques accessibles, des marques qui s'adressent aux familles, des marques gourmandes. Et aujourd'hui, en fait, on voit deux choses dans notre portefeuille. Une partie de notre activité hors domicile est complètement à l'arrêt. Et là, je pense notamment à nos 60 boutiques Häagen-Dazs qui sont bien évidemment fermées et qui, en fait, est compensée par une plus forte consommation à domicile qui nous permet pour nous de compenser cet effet-là.
C'est-à-dire que ce que vous ne vendez pas dans vos boutiques traditionnelles, si on prend l'exemple d'Häagen-Dazs, vous le rattrapez largement parce qu'on a que ça à faire de manger de la glace à la maison.
Alors la glace, il y a un dernier élément, c'est qu'un peu c'est un marché saisonnier et on est au tout début, il fait plutôt beau, mais on est tout début de la saison. Donc effectivement, sur la glace, on ne rattrape pas complètement. Mais si on prend l'ensemble de notre portefeuille General Mills, sur le portefeuille Yoplait, sur Géant Vert, sur les produits mexicains comme El Despacio, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la consommation à domicile compense le perte de notre activité hors domicile.
Pourtant, on avait pas mal entendu au démarrage que les gens s'étaient rués sur les pâtes, la farine, et que ce qui était un petit peu considéré comme l'achat plaisir, ce qui pourrait par exemple être le cas de vos produits mexicains en Del Paso, avait été mis de côté. Ça s'est régulé, on a réappris, on a maintenant vraiment envie de faire à manger à la maison.
Oui, exactement. Ce qu'on a vu, c'est dans les deux premières semaines d'annonce du confinement plus strict, on a vu effectivement certaines catégories qui étaient en forte croissance. Là, on voit que les choses se stabilisent et que tout ce qui touche, là encore, à la consommation familiale et au mieux manger, et on a du temps pour préparer ses repas à la maison. Et une marque comme Old El Paso, qui sont des produits d'une cuisine du monde, hein, cuisine mexicaine, mais sur lesquels on, pré- prépare, et on a notamment des kits où on aide à la préparation, et ben ça plaît à toute la famille, ça plaît aux enfants, et ce sont des produits qui marchent quand on est confiné à la maison.
On avait beaucoup entendu le fait que les transporteurs alertaient sur le fait que ça leur coûtait beaucoup plus cher aujourd'hui de transporter les produits à cause des normes sanitaires. Ils ont donc fait passer de fortes hausses de tarifs qui peuvent tout à fait s'entendre. Est-ce que c'est le consommateur au bout du bout qui paye chez General Mills Yoplait?
Non, nous on a effectivement des coûts supplémentaires. On se fait fort à l'heure où on parle de ne pas les refléter. On a une mission chez General Mills qu'on a écrite bien avant la crise du Covid, qui est en anglais Making Food the World Love, que je traduirai en français par fabriquer des produits alimentaires du quotidien dont actuellement la France a besoin. Et dans cette dimension-là, il y a une dimension 1, d'abord et avant tout, protéger nos employés, protéger notre outil de production, et on a 5 usines en France, et ça c'est la priorité qui nous guide. Et après, assurer que la distribution de nos produits au juste prix, et aujourd'hui au juste prix, les prix d'aujourd'hui c'est le prix d'hier, et il n'y a pas de changement. Et là-dessus, je voudrais saluer la grande solidarité de la filière alimentaire et nos partenaires de la distribution, où là il y a un peu une union sacrée pour travailler ensemble et remplir notre mission qui nous dépasse, qui est d'offrir des produits et qui offre un peu de un niveau de stabilité dans ce monde si perturbé.
Si vous arrivez à faire ça veut dire que le reste de l'année vous faites quand même des marges considérables.
Non, c'est-à-dire que nous
me dire oui, je m'en doute.
Non, mais on s'adapte, et tout à l'heure vous faisiez référence à des hausses sur nos coûts logistiques. Aujourd'hui elles n'ont pas été avérées, donc aujourd'hui nous on essaie de faire des économies au sein de notre portefeuille pour s'assurer qu'on ne reflète pas des hausses auprès de nos consommateurs.
Alors justement, vous disiez que vous avez plusieurs usines du côté de General Mills Yoplait en France. Comment tourne-t-elle en ce moment, et comment avez-vous appliqué des normes de sécurité qui soient acceptables pour que des salariés puissent chaque jour aller travailler?
Oui, alors la sécurité de nos collaborateurs, c'est vraiment notre priorité numéro un. Et je dirais, au nom de l'industrie agroalimentaire, c'est depuis toujours un niveau de performance qui est élevé. Ce qui est sûr, c'est que depuis que la crise a frappé, on a adapté les conditions de travail sur nos sites de production pour respecter scrupuleusement les gestes de barrière. Par exemple, adaptation des postes de travail, règles pendant les pauses, les repas, les changements d'équipe pour éviter tout contact rapproché, et pour la mettre en place une désinfection plus fréquente. C'est ce que font nos personnels. Je tiens vraiment à les remercier, ils font un travail exceptionnel au niveau production, au niveau plateforme logistique. Et ce qui fait...
Ils ont eu une prime, ces salariés?
Alors, nous avons validé la mise en place d'une prime supplémentaire pour les collaborateurs de General Mills Yoplait qui travaillent au sein des usines et des plateformes logistiques, pouvant atteindre 1 200 € pour les salariés physiquement présents sur site.
Est-ce que vous pensez que les organisations sanitaires que vous mettez en place pour faire tourner vos usines aujourd'hui vont perdurer après la crise, et que finalement ça va être ça la nouvelle norme? On ne sera jamais à moins de 2 mètres, on fera beaucoup plus attention aux règles sanitaires.
Ce qui est sûr, c'est que cette crise est sans précédent, dangereuse et appelée à durer. Donc effectivement, les gestes sanitaires, les gestes barrières sont appelés à perdurer. Dans le détail, on suivra, je dirais, les injonctions du gouvernement. Mais aujourd'hui, le niveau de standard de sécurité de produits qui était très fort dans nos usines avant coronavirus continuera, je dirais, on continuera à mettre la barre très haut, et on s'adaptera à l'environnement quand on aura plus de visibilité.
Eh bien, un grand merci Nicolas de la Giraudet, le directeur général France de General Mills Yoplait, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20.
Merci à vous, effectivement. On vous dit à demain, Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin à la une de vos quotidiens. Jeune médecin, le baptême du feu. Le journal La Croix donne la parole aux soignants qui font leurs premières armes en cette crise sanitaire. Depuis le début de l'épidémie, des milliers d'internes sont mobilisés pour aider les personnels hospitaliers. Une prime pour les soignants mobilisés, titre justement pour sa part Ouest France. On en parlait tout à l'heure dans le journal. Tandis que Libération a lui choisi de donner la parole aux survivants, entre guillemets. Ils ont pris la maladie de plein fouet, se sont isolés, certains ont été hospitalisés, puis ils en sont revenus. Face à la douleur de mon cerveau s'est déconnecté, dit l'un d'entre eux. Des survivants qui racontent à Libération les jours de fièvre, d'angoisse et leur retour à la vie. Le retour des frontières s'impose à l'Europe, titre pour sa part Le Figaro. Après la crise migratoire, la pandémie du Covid-19 a réinstallé les frontières entre les pays de l'espace Schengen, mais aussi à travers le reste du monde, converti au confinement. France et Chine ne masquent plus leurs intentions, titre pour sa part L'Opinion, qui rappelle que l'ambassadeur chinois a été convoqué hier au Quai d'Orsay. Malgré notre dépendance envers Pékin pour faire face au coronavirus, les relations entre les deux pays sont loin d'être confiantes. Marché boursier, le scénario qui inquiète, titre le journal Les Échos. Après une embellie, les bourses mondiales repartent à la baisse. On voyait ça il y a quelques instants avec Didier Hamot de boursier.com. Le baril de pétrole est au plus bas depuis 2002. Les banques américaines anticipent une récession violente et l'Europe redoute une vague de défaillance. Et puis Organisation mondiale de la santé, le coup de poignard de Trump, c'est le titre de l'Humanité. Le président américain, on en parlait également tout à l'heure, qui se défausse sur l'organisation en gelant la contribution financière de son pays à l'OMS. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et il est temps pour moi de passer la main à Olivier Delacroix et de vous passer une très belle soirée sur votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Et je vous retrouve à 23h pour un nouveau point sur
l'info. Exactement, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.